Il est 13h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
RFI Midi, Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on part pour un nouveau tour du monde de l'actualité avec nos correspondants, nos reportages, nos invités. Et on va consacrer une partie de ce RFI Midi aux 200 ans de la dette haïtienne imposée par la France. On va y revenir évidemment dans nos journaux. Et puis à partir de 13h en temps universel, 15h heure de Paris, avec un long reportage du correspondant de RFI à Port-au-Prince et un invité en studio. Cette dette a-t-elle encore des conséquences aujourd'hui? La France va-t-elle vers une reconnaissance de ce qui est dénoncé comme une injustice et une rançon, voire vers une indemnisation? Le président Emmanuel Macron doit faire des annonces. On en parlera donc avec Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Le chef de la diplomatie américaine est à Paris, Marco Rubio et Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, sont en France pour poursuivre la discussion sur une éventuelle trêve entre l'Ukraine et la Russie. Les Américains ont-ils finalement besoin des Européens pour faire avancer les négociations? Analyse à suivre de Nicolas Tenzer, enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris. Ce sera dans un peu plus d'une heure, vers 12h15 TU. Pendant ce temps, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, est à Washington pour rencontrer Donald Trump et évoquer certainement cette guerre en Ukraine, mais aussi les droits de douane que veut imposer le président américain et qui inquiète particulièrement les viticulteurs italiens.
Tout le monde a le même problème. Si ce vin ne part pas pour l'Amérique, ça pourrait conduire à un surplus en Italie et donc à une guerre des prix, c'est automatique.
Un reportage à écouter dans un peu plus d'une demi-heure, sans oublier l'actualité africaine, dans une heure et demie avec Paul Lonsin-Spinelli qui reviendra notamment sur les relations entre le Nigeria et le Niger. Et puis le sport avec l'élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà pour le programme. Mais d'abord un nouveau journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et on commence donc par ces discussions à Paris sur la guerre en Ukraine.
Des discussions qui ne sont pas du goût de Moscou, qui n'est pas convié. Le Kremlin estime ce matin que les Européens veulent la poursuite de la guerre. Pour en parler, Heike Schmidt nous a rejoint. Bonjour Heike.
Bonjour Karine.
Autour d'Emmanuel Macron à Paris et des représentants allemands et britanniques, américains et ukrainiens se retrouvent 2 mois après la passe d'armes dans le bureau ovale.
Oui, tout à fait. Les pourparlers de paix organisés par Washington sans les Européens piétinent. La visite de Marco Rubio et du conseiller spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est donc l'occasion pour Paris et ses partenaires européens de faire entendre leur voix face aux Américains qui jusqu'ici jouent cavalier seul. La France tentera de faire bouger les lignes. Ensemble avec des délégations venues de l'Allemagne et du Royaume-Uni, les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense sont également présents à Paris, tout comme le bras droit du président Zelensky, Andrei Yermak. L'un des sujets abordés aujourd'hui devrait être la coalition des volontaires, une trentaine de pays alliés à l'Ukraine qui veulent créer une force de réassurance pour empêcher toute nouvelle attaque russe et pour garantir aussi un éventuel cessez-le-feu. Une idée qui fâche à Washington et qui est rejetée en bloc par Vladimir Poutine. Le président russe refuse de voir des troupes de pays de l'OTAN stationnées en Ukraine après une trêve.
Heike Schmidt du service international de RFI. En attendant sur le terrain en Ukraine, aucune accalmie. Les frappes russes continuent. La nuit dernière, une attaque massive de drones a fait dans une zone résidentielle 3 morts et 30 blessés à Dnipro dans l'est du pays. Alger a accusé hier le ministre français de l'Intérieur de porter l'entière responsabilité du regain de tension entre les deux pays. Aujourd'hui, Bruno Retailleau estime qu'il faudra monter en puissance et utiliser d'autres instruments si les autorités algériennes refusent toujours de reprendre ses ressortissants expulsés de France. Il évoque les visas et les accords bilatéraux comme moyen de pression, l'arrestation d'un agent consulaire algérien accusé de l'enlèvement d'un influenceur algérien exilé en France avait mis le feu aux poudres. Alger accusant le ministre français d'être intervenu dans cette affaire. Paris avait rappelé l'indépendance de la justice en France.
Des annonces d'Emmanuel Macron sur Haïti très attendues aujourd'hui.
Le président français doit évoquer le douloureux passé commun des deux pays à l'occasion de la date anniversaire du 17 avril. En 1825, il y a 200 ans, Haïti acceptait sous la menace militaire française de payer des indemnités indemnité colossale pour assurer son indépendance. L'ancienne colonie payera sa dette jusqu'en 1952. Est-ce qu'Emmanuel Macron abordera la question des réparations ? En Haïti, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la restitution de cette dette, estimée à des centaines de millions d'euros. Correspondance à Port-au-Prince, de Peterson Luxama.
Dans la capitale d'Haïti, la question de la rançon de l'indépendance refait surface. Étudiants, chercheurs, citoyens, tous réclament réparation et restitution, à l'image de Sephora, étudiante à l'Université d'État d'Haïti.
Comme tu peux le constater, c'est un nouvel élan qui semble se produire, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On aborde davantage cette question ces derniers temps, ce qui est normal, car c'est une grande injustice que la France nous a faite. Mais il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi des actions concrètes pour qu'Haïti obtienne réparation et restitution.
Pendant plus d'un siècle, Haïti a payé à la France une somme colossale pour obtenir sa reconnaissance comme nation libre. Une aberration, dénonce Richcord, jeune journaliste rencontré à Pétionville.
C'est véritablement une aberration qu'un peuple ait eu à payer pour une indépendance qu'il avait déjà conquise. C'est ce qui explique la situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu tant de sang versé, tant de sacrifices consentis pour que cette nation puisse devenir libre.
De son côté, Georges Eddy Lucien, professeur d'histoire et membre du collectif contre la rançon de 1825, dénonce une injustice historique. Il estime que la réparation de cette injustice morale et historique est une nécessité.
Nous réclamons la restitution de la dette parce que nous avons été rançonnés. Nous exigeons le paiement de cette rançon afin d'éviter que d'autres générations, en Haïti ou ailleurs, ne continuent à être rançonnées par une grande puissance. Il est temps d'y mettre fin en créant un précédent.
Mais la France est-elle prête à aller jusque-là ? Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
À Gaza, Karine, chaque jour, les bombardements israéliens font des victimes.
Depuis la reprise des frappes il y a un mois, l'armée a intensifié ses opérations. Aujourd'hui, elles ont fait 37 morts, la plupart touchés dans des tentes de déplacés. Le gouvernement israélien affirme que seul un blocus de l'aide humanitaire et une pression militaire accrue sur le Hamas permettra son éradication et la libération des otages. Désormais, l'armée contrôle 30% de la bande de Gaza. L'ONU dénonce la situation humanitaire actuelle comme la pire qu'ait connue l'enclave palestinienne. Sur un autre front, l'armée israélienne annonce de nouveau avoir frappé au Liban des cibles du Hezbollah sans plus de précision.
À Washington, ce sont toujours les droits de douane qui remplissent l'agenda de l'administration Trump.
Au suivant, à la Maison-Blanche, après les représentants japonais, c'est au tour de la chef du gouvernement italien de venir négocier des exemptions. Hormis la Chine, le président américain a décidé une pause de 90 jours avant d'imposer des taxes punitives à l'ensemble de la planète, à charge au pays de venir négocier pour obtenir des rabais, les fameux deals chers aux locataires de la Maison-Blanche. Giorgia Meloni, fervente partisane de Donald Trump, est pressée par l'Union européenne de parler au nom des 27, mais elle pourrait être tentée de jouer sa propre partition. À Bruxelles, l'analyse de Pierre Benazet.
Pour l'Italie, une guerre commerciale serait évidemment une catastrophe, car l'économie de la péninsule est fortement dépendante de ses exportations. Au total, l'Italie exporte pour plus de 67 milliards d'euros vers les États-Unis, avec un excédent commercial de 42 milliards. La crainte de beaucoup dans l'Union européenne est donc que Giorgia Meloni tente de négocier un accord italo-américain séparé et permet ainsi à Donald Trump de réaliser son ambition de diviser les Européens. Ces craintes sont ouvertement exprimées dans plusieurs capitales de l'Union. Elles sont renforcées par le fait que Giorgia Meloni a récemment dû endurer un rôle de second plan, puisque Donald Trump a choisi de recevoir le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer. Mais du côté de la Commission européenne, on l'assure, la présidente Ursula von der Leyen s'est longuement entretenue avec Giorgia Meloni et la visite est préparée en commun. On place donc un espoir certain dans sa relation avec Donald Trump, d'autant plus qu'Ursula von der Leyen elle-même n'a jamais obtenu de le rencontrer. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et pendant ce temps, la Californie continue de s'illustrer dans la bataille contre l'administration Trump.
L'État de l'Ouest américain, bastion démocrate, représente à lui seul la cinquième économie mondiale et pèse 14% du PIB américain. Il conteste en justice les droits de douane imposés par Washington. Son gouverneur, Gavin Newsom, estime que le président ne peut pas les imposer sans un accord du Congrès. La Maison-Blanche a vivement réagi à cette procédure. Elle estime que le gouverneur de Californie États-Unis feraient mieux de se concentrer sur les problèmes de criminalité et de pouvoir d'achat dans son État.
Et en France aussi, évidemment, on s'inquiète des répercussions de ces hausses de droits de douane, surtout ceux entre Washington et Pékin.
Notamment le secteur de la chimie qui tire la sonnette d'alarme. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pourrait détruire en Europe jusqu'à 200 000 emplois. C'est l'estimation de la Fédération France Chimie. Frédéric Gauchet s'inquiète de voir les produits chinois et américains débarquer en Europe et donc fragiliser l'industrie. On l'écoute.
Ces barrières douanières et ces tensions entre les deux plus gros clients du monde de la chimie vont entraîner un effet récessif. Cet effet récessif va accentuer le fait qu'il y a aujourd'hui une surcapacité et donc on estime qu'il va y avoir un surplus d'une quinzaine de milliards de produits chimiques qui vont pas trouver preneur côté Chine et à une dizaine de milliards du côté des USA. Et donc ces produits vont chercher désespérément de nouveaux clients. Quand il y a une surcapacité dans l'industrie, cela se traduit in fine par des fermetures d'usines. Et bien entendu, les usines qui ferment en premier sont celles qui sont les moins compétitives et c'est là où on est très inquiet.
Frédéric Gauchet de la Fédération France Chimie, interrogé par Nicolas Fellmann. Qui était au courant des agissements de l'abbé Pierre ? De nouvelles révélations font état d'informations sur des accusations d'agression sexuelle dans les mains du Vatican dès 1955. L'Église de France annonce qu'elle va se rapprocher du Vatican, selon ses termes, pour faire la lumière sur ce qui était précisément connu à Rome. Un livre-enquête qui paraît aujourd'hui se base notamment sur des archives du Saint-Siège. Décédé en 2007, l'abbé Pierre est visé depuis 2024 par plus de 30 accusations de violences sexuelles, notamment sur des enfants. Du football, pour finir ce journal, le miracle n'a pas eu lieu pour le Real Madrid, c'est bien Arsenal qui s'est imposé 2-1 lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. L'équipe anglaise rencontrera donc le PSG. L'Inter Milan et le Bayern Munich ont fait match nul 2-2, mais les Italiens l'avaient emporté à l'aller, donc ils rejoignent eux aussi le carré final. L'Inter Milan affrontera le FC Barcelone.
Et c'était le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi.
C'est la nouvelle tendance qui déferle sur les réseaux sociaux, les starter packs, des images générées par l'intelligence artificielle sur ChatGPT. Bonjour Tom Malky.
Bonjour.
On parle alors de ces images qui représentent des figurines à l'effigie de quelqu'un, figurine qui apparaît dans un emballage plastique, un petit peu comme un jouet, avec tous les accessoires qui caractérisent cette personne.
Oui, et ça peut être basé sur un métier. Par exemple, pour le pompier, la figurine sera en combinaison, accompagnée de son petit casque, de son talkie-walkie et de sa bonbonne d'oxygène. Et les possibilités sont infinies. Les starter packs peuvent être basés sur des personnalités célèbres comme Neymar, Donald Trump ou Félix Tshisekedi. Et puis, une des raisons pour lesquelles ce phénomène fonctionne autant, c'est parce que vous pouvez créer le vôtre. Il suffit de donner à l'IA votre photo. Par exemple, vous, Clotilde, votre starter pack vous montrerait peut-être avec un micro, un stylo et un logo RFI.
Très probablement. Et c'est parce que les possibilités, Tom, sont infinies, ça a donné lieu à des dérives.
Des dérives racistes d'abord. La semaine dernière, une élue française a publié sur les réseaux un starter pack OQTF, la fameuse obligation de quitter le territoire français. On y voit une figurine qui représente un homme maghrébin en survêtement avec un drapeau de l'Algérie, un avion et un paquet de cigarettes. Et puis il y a eu le starter pack Gisèle Pelicot. C'est la femme qui a obtenu justice face à son mari dans un procès ultra médiatisé il y a quelques mois. Les starter packs montrent cette femme en pyjama accompagnée d'une pilule, d'un lit et d'un appareil photo rappelant les viols dont elle a été victime par soumission chimique. Il a été diffusé sur un compte TikTok, fermé depuis, pour promouvoir un site de libertinage.
Il y a ces dérives et puis il y a aussi le coût environnemental que représente la création de ces starter packs.
Une requête sur ChatGPT consomme autant d'énergie que 10 recherches sur Google, selon l'Agence internationale de l'énergie. Générer une image via intelligence artificielle équivaut à consommer entre 2 et 5 litres d'eau. C'est aussi l'équivalent de la quantité d'électricité nécessaire à la recharge d'un smartphone, selon la chercheuse canadienne Sarah Lucioni.
Et pour alerter contre ce coût environnemental, Greenpeace a créé son propre starter pack, changement climatique, en montrant Un ours polaire qui pleure, mais cette fois-ci, Tom, c'est sans recours à l'IA.
C'est ça, c'est un starter pack dessiné. Et cette initiative s'inscrit dans un mouvement lancé par l'illustrateur Patouret. Les graphistes dessinent pour protester contre la menace que l'IA fait peser sur la profession. Léo Trimain est illustrateur et il a participé à ce mouvement.
L'IA aujourd'hui, elle s'est construite en analysant ce qui existe déjà sur Internet et en recréant des images à partir d'images trouvées sur Internet, à savoir souvent l'image de graphiste, d'illustrateur, d'illustratrice. Donc en fait, on va vraiment prendre la créativité de l'artiste, lui retirer son essence et en garder que le style. C'est censé représenter l'individualité de chacun. Le fait d'avoir un style hyper uniforme et qui en fait n'a plus vraiment d'âme, c'est peut-être pas le move le plus intéressant.
Et ce n'est pas la première fois que les artistes s'en inquiètent, puisque juste avant cette tendance, c'est l'esthétique des studios d'animation japonais Ghibli que l'IA a copié, une pratique contre laquelle s'était d'ailleurs formellement opposé son créateur, Hayao Miyazaki.
Un dossier signé Tom Malky, merci beaucoup. Il est 13h15 à Paris, l'invité politique aujourd'hui sur RFI, c'est la sénatrice socialiste des Français de l'étranger, présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes, Hélène Conway-Mouret répond à vos questions, Véronique Rigollet.
Bonjour Hélène Conway-Mouret, bienvenue. Bonjour. Sur RFI. On va évoquer le chaos dans lequel Donald Trump a plongé l'Amérique et le monde entier, et qui fait également trembler les expatriés français aux États-Unis. Mais pour commencer, question à la présidente du groupe d'amitié sénatorial France-Caraïbes que vous êtes. Est-ce que vous saluez la volonté du président Macron de reconnaître l'injustice faite à Haïti il y a 200 ans, jour pour jour, quand Charles X avait imposé à Port-au-Prince une très lourde indemnité, 150 millions de francs or, en échange de la reconnaissance de son indépendance?
D'abord, bien évidemment, je pense que ce devoir mémoriel, c'est une étape importante et nécessaire à la fois pour Haïti, mais également pour la France. Et c'est nous engager sur un chemin de la reconnaissance. D'autant que cette annonce aura lieu une semaine exactement après l'adoption par le Sénat, à mon initiative avec mes collègues du groupe d'amitié, d'une proposition de résolution qui a été votée très largement le 10 avril dernier pour justement favoriser la restauration de la sécurité en Haïti et que la France véritablement joue un rôle diplomatique pour nous assurer que le retour de l'ordre et de la sécurité puisse permettre l'installation d'un processus politique et puis surtout la protection des populations. Donc nous sommes là dans une, si vous voulez, dans des étapes où le Parlement s'est saisi de cette question, a rappelé des chiffres très importants parce que la France est déjà impliquée. Nous avons 16 millions d'aides humanitaires par exemple, qui ont été apportés en 2024, auxquels se sont ajoutés 8 millions d'aides françaises dans le cadre d'un engagement multinational avec le Canada et les États-Unis, plus 2 millions pour la police haïtienne. Donc la France est déjà engagée, mais nous avons besoin d'aller un peu plus loin et d'abord sur le plan politique et diplomatique d'être actif, et puis sur le plan mémoriel, bien évidemment, de faire ce travail. C'est pas la première fois. Nous l'avons engagé également avec l'Algérie, avec le Rwanda, avec le Cameroun.
Je reste un peu sur cette dette mémorielle. Et Hélène Conway-Mouret, de quelle manière cette double dette a entravé le processus de développement de ce qui était la toute jeune République haïtienne? Et est-ce qu'elle est en partie responsable des maux que connaît toujours Haïti actuellement?
Alors, les mots actuels, je dirais non, parce que ce sont des gangs aujourd'hui qui terrorisent la population et qui fait subir à cette population des sévices absolument abominables. Non, bien évidemment non. Mais par contre, ce pays, en effet, on lui a demandé de payer pour son indépendance. Et que aujourd'hui, bon, c'est une injustice à la fois historique et morale, donc nous portons cela, et ce qu'il faut, c'est des actions concrètes. Je ne pense pas que de se dire que nous avons un remboursement d'une dette, d'abord parce que l'aide française, comme je viens de le rappeler, est assez conséquente chaque année, mais d'avoir des actions très concrètes, je pense qu'ils vont être présentées par le président président de la République, donc il faut attendre cette annonce-là, mais qui nous permettront, eh bien, quelque part, d'avoir cette réparation morale, si vous voulez, autant que financière, mais sur le plan des finances, il y a déjà un engagement, comme je disais, qui est important chaque année.
Voilà, on ne va pas jusqu'à la réparation financière. 150 millions de francs or, hein, ça équivaudrait aujourd'hui à 20 milliards d'euros.
Oui, absolument.
L'urgence, vous dites, c'est la restauration de la sécurité. Vous évoquiez il y a un instant, hein, ce sujet qui vous tient à cœur au Sénat, le Sénat qui œuvre pour accroître l'aide en faveur d'Haïti, pour restaurer cette sécurité. C'est plus la priorité que la dette aujourd'hui.
Eh bien, disons, nous pensons d'abord, la priorité, c'est de pouvoir faire en sorte que la population haïtienne puisse vivre normalement et ne pas être sujette aux exactions qui leur sont infligées par des gangs mafieux, des brigands, enfin, et donc la restauration de cette sécurité permettra à la population de reprendre une vie normale, un processus politique qui fera qu'il y aura à nouveau un gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un conseil de transition, hein, dont j'avais rencontré le président, mais qui est parti depuis le mois dernier. Voilà, donc nous avons besoin de cette stabilité avant de penser que le pays puisse en effet bénéficier peut-être à terme d'une reconnaissance de la France qui sera décidée entre Haïti et la France le moment venu. Mais aujourd'hui, ce pays n'est pas en capacité, et ce n'est pas des sommes d'argent qui seraient versées, qui pourraient faire quoi que ce soit, puisque personne n'est en mesure de les réceptionner, de les utiliser pour développer le pays aujourd'hui.
On reste sur les Amériques, direction les États-Unis, bousculés, eux, comme le reste du monde d'ailleurs, hein, par la brutalité, les outrances de Donald Trump et l'inquiétude qui monte parmi les quelques 300 000 Français expatriés. Vous y étiez il y a peu, Hélène Conneret-Mouret. Est-ce que ces Français parlent aujourd'hui d'un véritable climat de peur ?
Oui, je crois qu'ils y sont sujets, comme les Américains d'ailleurs, hein, puisque j'ai rencontré des Français, mais essentiellement des Américains. Mais les Français que j'ai rencontrés, d'abord, je dirais, sont majoritairement inquiets.
Qu'est-ce qu'ils craignent, concrètement ?
Certains craignent de perdre leurs emplois parce que ils sont chercheurs dans des universités, ou ils sont fonctionnaires, ou ils travaillent dans des boîtes qui sont directement impactées par les mesures, dans cette guerre commerciale que le président Trump
et qui touche aussi les États-Unis, hein, bien sûr.
Voilà, ils pensent aussi que il y a un impact direct sur l'activité de l'entreprise ou de l'agence, ou enfin quel que soit leur employeur, une majorité aussi, pensant que de toute façon il va y avoir une récession, qu'il va y avoir une forte inflation, cela les entraîne à remettre en cause leur expatriation pour certains. En fait, ce que j'ai noté, c'est que pour beaucoup, c'était la fin d'un rêve. C'est-à-dire que ils sont allés aux États-Unis en pensant que c'était le pays de la liberté, le pays qui leur permettrait de s'épanouir, de faire beaucoup de choses, d'entreprendre. Et là, tout ce qui est mis en place aujourd'hui va à l'encontre de cela, parce qu'on parle de liberté d'expression sur les réseaux sociaux, mais on voit bien que ceux qui s'expriment sont les premiers touchés, à commencer par les journalistes et les agences de presse américaines. C'est tout un rêve, un engagement qui est très personnel, qui s'effondre. Et donc, presque un quart aujourd'hui, pense à rentrer ou à aller ailleurs.
Il y a cette dérive autoritaire du président américain qui inquiète les Français, notamment, et vous le disiez, hein, les chercheurs, après cet épisode de ce chercheur du CNRS, hein, refoulé parce qu'il avait exprimé une opinion personnelle sur la politique de l'administration Trump. Hélène Conway-Mouret, est-ce que c'est dans la droite ligne de la guerre que mène actuellement Trump contre l'université de Harvard, et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, l'administration américaine menace ce matin d'interdire à Harvard d'accueillir des étudiants étrangers?
Oui, alors là, nous avons en fait sur ce sujet-là une convergence de tous ces groupes d'influence autour du président Trump, qui ont d'ailleurs qui l'ont soutenu dans sa campagne et qui ont fait que ils ont agrégé cette majorité d'Américains qui de fait l'ont soutenu et qui le soutiennent encore, nous dit-on quand même majoritairement aujourd'hui, hein, malgré les mesures qu'il prend et qui n'étaient pas forcément dans la ligne de ce qu'ils attendaient. Mais quand même, nous avons là une lutte acharnée contre tout ce qui est scientifique. Nous avons aussi le thème du rejet de l'immigré, du rejet de l'autre. Mmh. Nous avons quelque part aussi des tendances religieuses qui mettent en avant un certain nombre de problématiques. Enfin, et c'est cette convergence de tout cela que nous avons sur cette université d'excellence qui justement est... Enfin, est renommé dans le monde entier et que tout le monde admire.
Du jamais vu aux États-Unis, hein.
Absolument, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est vraiment ce rêve américain, hein, l'American Dream, vous savez, qui aujourd'hui est en train de s'effondrer en pensant que personne ne pensait que ça pourrait aller aussi vite ou que c'était possible de cette façon, venant de forces intérieures, d'une brutalité extrême qui fait que quand tout sera cassé, parce que c'est aussi ce sentiment-là, que tout est en train d'être cassé, il sera très compliqué de rebâtir. En tout cas, ça risque d'être un peu long.
Et on y reviendra avec vous sur RFI. Merci Hélène Conway-Mouret. Bonne journée.
Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste des Français de l'étranger, qui répondait aux questions de Véronique Rigolet. C'est un mouvement inédit au sein de l'Église catholique française. Pendant toute la durée du carême, les femmes paroissiennes étaient appelées à faire grève. Parti des États-Unis, ce mouvement a trouvé un écho en Espagne, en Pologne, en Inde, mais aussi donc en France. L'intérêt de cette mobilisation symbolique est de pointer un paradoxe. D'un côté, ces femmes bénévoles sont indispensables à la vie de l'Église. De l'autre, elles sont encore trop peu consultées dans les instances dirigées par des hommes. Reportage de Baptiste Coulon dans le petit village de Saint-Sauvent en Charente-Maritime à l'ouest de la France.
Elle nous porte tous dans le village, elle veille sur nous, elle est imposante, elle est grande, elle est massive, elle a une présence et voilà, je suis bien avec elle.
Cela fait 40 ans que Florence est paroissienne dans l'église de Saint-Sauvent. 40 années d'un service essentiel pour maintenir quelques messes tous les ans.
Nous sommes des petites mains. Ça veut dire faire toutes les petites tâches, les petites besognes, les petites choses ennuyeuses aussi, mais qui sont nécessaires, quoi. Laver les nappes, les repasser, les mettre sur l'autel, faire les bouquets.
C'est un travail qui demande du temps, j'imagine, et de l'énergie.
Oui, mais on est, je ne suis pas toute seule. Hein. On a un bon groupe. Hein.
Mais ce sont souvent des femmes qui s'y collent.
Ce sont des femmes, absolument. On voudrait que ça change. Ça c'est sûr, moi je soutiens totalement les femmes qui décident de dire partageons plus les tâches. Voilà.
Florence n'a pas officiellement rejoint le mouvement, contrairement à Alice, elle aussi paroissienne. Sur son sac, un petit pins, femme catholique en grève, elle dénonce l'absence de consultation dans les assemblées locales et les diocèses.
On vient nous demander notre avis de temps en temps ou des conseils, mais on ne peut pas voter, on ne peut pas choisir. Si un jour quelqu'un dans la hiérarchie est contre nous ou nous refuse quelque chose, on n'a pas de recours possible. Évidemment, les décisions se prennent entre clercs, entre prêtres. Quand on veut exprimer quelque chose, on est un petit peu relégué à l'arrière-boutique, quoi.
Dans ce village de 500 habitants et aux alentours, la grève est accueillie de façon contrastée par les fidèles.
Certains ont ri en disant « oui, c'est pas demain que vous changerez le monde hein. ».
Partagez aussi les membres du clergé, à quelques exceptions.
Je m'appelle Gilles et je suis diacre depuis 11 ans.
Dans cette paroisse, Gilles Cavaro est peut-être l'un des rares à porter une autre parole, celle d'un homme d'église qui prône l'égalité.
Le Christ voulait que les femmes aient plus de place dans l'église et qu'actuellement l'église est plutôt en retrait par rapport à ce que lui a montré quand il a vécu sur cette terre. Je trouve que la place de la femme devrait être revisitée et ajustée au message évangélique.
Ce qui est drôle, c'est qu'avant la grève, j'aurais jamais pu penser vraiment que Gilles était pour cette ouverture. Ça fait plaisir d'entendre ça, mais c'est pas majoritaire.
Ouvrir le dialogue sur la place des femmes dans l'église, c'est tout l'intérêt de cette grève.
C'était une discussion qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir et qu'on a pu avoir grâce à ce temps un peu de grève.
Même là, nous, dans la paroisse, on n'a pas beaucoup parlé. Hein, donc je pense que ce serait mieux qu'il y ait encore plus de discussions par rapport à ça. Hein. Pour moi, la question principale, c'est comment travailler mieux ensemble, marcher ensemble vers le Christ. Donc hommes et femmes ensemble, et c'est important.
Le dialogue ouvert, Gilles, Alice et Florence promettent de le poursuivre bientôt autour d'un repas.
Un reportage de Baptiste Coulon, l'église française qui, d'un mot, est encore aujourd'hui bousculée par les nouvelles révélations concernant l'abbé Pierre.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.